j'ai trop peur. Je veux pas finir comme les tunnels, comme un acteur en Ukraine. Je veux pas finir empoisonné comme un journaliste anglais. Je connais les pires tortures envoyées par KGB. J'ai prévu toute aventure pour mes vacances chères. Poutine, Poutine, je veux pas chanter sur toi. Poutine, Poutine, je veux pas chanter contre toi. Poutine, Poutine, parce que j'ai trop peur. Parce que j'ai trop peur. Parce que j'ai trop peur. Je voulais te dire que même si j'adore ma vodka, dans ce pays qui te sert d'empire, il n'y a pas plus mafieux que toi. Poutine, Poutine. 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 Poutine, Poutine.
Enfin, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Sur les radios rock.
Allez, quelques informations sur Sad Madonna. Je l'avais reçu il y a quelques mois dans British Connection. D'ailleurs, vous pouvez écouter l'émission en podcast. Sad Madonna a fait sa British Connection via la page Facebook de l'émission. Eh bien, Sad Madonna vient de terminer une grosse tournée européenne. C'est passé par les Pays-Bas, par Nantes, par Prague, par Poznan. Attention, la prochaine date, ça sera en France, à Romans-sur-Isère. Ce sera le samedi 30 mai, Sad Madonna en concert. Tout de suite, voici son dernier single August Underground en British Connection.
Tu es à présent sur British Connection, la dernière aventure du monde civilisé, et tu n'en sortiras pas vivant.
Salut, c'est Arnaud de Villard dans British Connection. Je suis le co-auteur d'un livre et chez l'éditeur EPA, et qui est consacré au réalisateur américain Martin Scorsese. Je l'ai écrit avec Olivier Bousquet et Nicolas Chaleur, qui sont tous les deux journalistes, comme moi. Alors ce livre s'appelle tout simplement Scorsese, la totale. Et vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Il fait 504 pages, il y a beaucoup de photos, mais aussi énormément de textes. Alors, et pour cause, le principe consiste à raconter la création d'absolument toutes les réalisations de Scorsese, depuis ses courts-métrages étudiants à l'Université de New York dans les années 60, jusqu'à ses longs fresques de plus de 3 heures comme Silence ou Killers of the Flower Moon, en passant bien sûr par ses grandes œuvres des années 70, Mean Streets, Taxi Driver, New York, New York. Mais on parle aussi de ses documentaires, dont certains sont assez méconnus, à propos de la New York Review of Books, ou de l'intellectuelle new-yorkaise Fran Lebowitz, de ses séries télé, de ses concerts filmés, de la série de films sur le blues, et même des vidéoclips, il y en a deux, pour Michael Jackson et Robbie Robertson. Alors c'est une filmographie foisonnante, hein, mais l'idée est d'apporter justement la même attention à chaque œuvre, que ce soit un petit film ou un chef-d'œuvre. Les textes sont donc structurés de la même manière à chaque fois. Alors vous avez la genèse, c'est-à-dire d'où vient l'idée, qui a initié le projet, pourquoi, comment a été écrit le scénario, écrit et réécrit selon les moments. Après, vous avez la distribution, qui sont les acteurs, d'où ils viennent, pourquoi ils ont été choisis, pourquoi ils ont été imposés aussi parfois. Et la réalisation proprement dite ensuite, ça c'est la partie centrale des textes, le déroulement des tournages, les problèmes, les moments de grâce. Les effets spéciaux aussi quand il y en a, bon, c'est pas souvent le cas chez Scorsese, mais il y en a quand, par exemple pour Hugo Cabret. Vous avez aussi c'est là qu'on trouve les prouesses de montage, hein, qui sont légion chez Scorsese. Hein, Scorsese, le montage, c'est une de ses passions. La fabrication de moments clés, comme la séquence du carnage final dans Taxi Driver, qui a nécessité le découpage du plafond d'un appartement new-yorkais. Et enfin, on s'intéresse à la réception, c'est-à-dire à la fois le succès ou l'échec en salle des films, voire la réception à la télévision par les audiences. Et aussi les commentaires de la critique, voire les scandales et les polémiques que tel ou tel film a provoqué, la plus célèbre étant celle déclenchée par La Dernière Tentation du Christ en 88. Et au milieu de tout ça, on glisse d'autres textes qui sont plus thématiques et transversaux, par exemple sur le rapport compliqué de Scorsese à ses origines italiennes, sa représentation de la femme aussi, la manière dont son catholicisme imprègne ses récits et ses visions. Évidemment, la représentation de la violence dans ses films, hein, qui a souvent choqué, mais qui a aussi beaucoup évolué. Il faut savoir qu'on a affaire à un réalisateur tourmenté, hein, qui se pose beaucoup de questions, hein, sur lui, sur ses choix, sur sa vie. Il n'est jamais certain d'être à sa place, il est écartelé entre ses origines siciliennes et sa réalité new-yorkaise, entre son éducation catholique et les tentations des années 60. Hein. Il faut savoir qu'il avait... Il avait commencé une formation de prêtre avant d'abandonner parce que justement il était tiraillé par le rock, la jeunesse, tout ce que c'est bouillonnant de cette période, quoi. Et tout ça transpire dans toute son œuvre. On dresse aussi quelques inévitables portraits, hein, de collaborateurs. Donc, il y a celui de Robert De Niro, mais aussi Leonardo DiCaprio ou le réalisateur scénariste Paul Schrader. Et bien sûr, impossible de faire un livre sur Scorsese sans s'attarder sur son rapport à la musique, en particulier au rock, et sur l'utilisation qu'il en fait dans ses films, et ça, on y reviendra plus tard. Donc, en attendant, je vous propose d'écouter une curiosité qui est utilisée dans une scène du film Casino en 95. C'est la reprise de I Can't Get No Satisfaction des Rolling Stones, mais par le groupe New Wave Devo.
British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock, du rock, du rock, du rock, du rock, du rock, du rock.
Alors pourquoi Scorsese? Ce livre fait partie d'une collection. L'idée initiale, c'était de s'intéresser à des cinéastes emblématiques qui incarnent la notion même de cinéma. Alors c'est pour ça que le premier livre était sur Alfred Hitchcock. Et avant ce volume sur Scorsese, j'en avais coécrit un sur Steven Spielberg, et avec les deux mêmes co-auteurs. Et Scorsese, il fait indéniablement partie de ce genre de cinéaste. C'est-à-dire qu'au-delà de son style, de ses techniques de narration éclatées, de son montage, encore une fois de son usage de la musique, Scorsese c'est aujourd'hui synonyme de cinéphilie. C'est-à-dire qu'il est ni plus ni moins qu'un gardien du temple, qui est garant d'un amour du cinéma au sens de l'expérience collective en salle, qui est en train de se perdre en fait, avec les plateformes de streaming. Et c'est pas juste une posture, c'est-à-dire que si on met de côté ses propres œuvres, Scorsese il est engagé dans la préservation du patrimoine cinématographique par le biais d'une fondation qu'il a montée. C'est-à-dire qu'il restaure des copies, s'implique dans la production ou la distribution de films, et il amasse quantité d'archives, quoi, notamment en VHS. Mais bien sûr, Scorsese, c'est le cinéaste avec lequel quantité d'acteurs encore aujourd'hui veulent tourner, parce qu'il représente lui-même tout un pan de l'histoire du cinéma. Donc pour rappel, Scorsese il est associé à ce qu'on appelle le Nouvel Hollywood. Alors cette formule désigne une période dans les années 60 et 70 où les réalisateurs américains avait réussi à s'imposer face aux studios, et aux producteurs, qui étaient autrefois tout puissants. Mais c'est aussi une époque qui est marquée justement par des visions désenchantées de l'Amérique, où les valeurs américaines comme la famille, l'argent, le patriotisme, la réussite, les institutions, tout ça est pris à rebours, parce que c'est des années de grandes désillusions, avec la guerre du Vietnam, le Watergate, la lutte pour les droits civiques, les assassinats de John Kennedy, Robert Kennedy, Martin Luther King. Et c'est aussi dans ces films qu'on voit la déliquescence des grandes métropoles américaines. Et Taxi Driver, dans tout ça, c'est sans doute l'un des meilleurs exemples de ce grand malaise américain, qui est à la fois désespéré, nauséeux, désabusé dans sa morale finale. Et dans ce contexte, Scorsese, c'est un genre de précurseur, parce qu'on l'oublie un peu aujourd'hui, mais c'est lui qui a ouvert la voie à la représentation de communautés culturelles et ethniques dans le cinéma hollywoodien. En l'occurrence, il a mis au premier plan le petit peuple de Little Italy, avec ses modes de vie, ses rites sociaux, son langage, sa pauvreté, sa violence aussi. Et dans des films comme Without Knocking at My Door, qui est son premier long métrage, puis ensuite Mean Streets, c'est la première fois qu'on voit des Italo-Américains jouer des Italo-Américains, c'est-à-dire avec leur gouaille, leur accent, leur vocabulaire, directement issu de la rue. Les rues elles-mêmes sont celles dans lesquelles vivent ces gens, et des gens au milieu desquels Scorsese, lui, a grandi, quoi. Et c'est impossible d'évoquer Scorsese sans parler de ses films de mafia, évidemment. Là encore, il monte des gangsters sous un jour totalement nouveau. Alors on est loin du parrain, c'est-à-dire qu'ils sont filmés au ras de la rue, dans leur quotidien, dans des arrières-salles. Il y a la sauce tomate qui mijote sur les fourneaux, les parrains s'occupent du barbecue, ils sont filmés en train d'émincer une gousse d'ail au rasoir, et tout ça au milieu de bouts de dialogue en sicilien. Sans oublier des explosions de violence extrêmement brutales, qui sont presque de l'ordre de la pulsion et du réflexe, quoi. Cette mise en scène de la communauté, c'est aussi montrer tout un art du non-dit, de l'antiphrase, une capacité à représenter des complexes relations de pouvoir et de domination, et qui atteignent une espèce de perfection dans The Irishman, moi je trouve. C'est aussi le cas d'un film comme Le Temps de l'innocence, qui n'a rien à voir avec la mafia, mais c'est un film où la bonne société new-yorkaise de la fin du 19e siècle est filmée comme une communauté fermée, avec ses lois tacites, ses parrains, ses renégats. Alors, au milieu de tout ça, Scorsese, il n'a de cesse de creuser le thème de la culpabilité et de la trahison. C'est-à-dire, jusqu'où est-on capable d'aller pour être accepté dans la communauté? Où se situe la limite entre la loyauté et la peur? Alors, avant de pousser plus loin la réflexion, je vous propose d'écouter une chanson qui rythme une séquence aussi célèbre que délirante des Affranchis, qui a fait la gloire de l'acteur Ray Liotta. Donc, voici What is Life de George Harrison.
What I feel, I can't say.
séquence du film où un personnage fait sa première apparition avec quatre chansons qui s'enchaînent. Et bien ça, c'est le cas de Ginger, la femme fatale qui est incarnée par Sharon Stone dans Casino. Vous avez Sleeping and Sliding de Little Richard, Love is Strange du duo Mickey and Sylvia, Heart of Stone des Rolling Stones, Love is a Drug de Roxy Music. Ou alors, prenez une scène d'incendie nocturne et plaquez dessus un instrumental blues de 1927. Ça, c'est dans Killers of the Flower Moon avec Dark Was the Night, Cold Was the Ground de Blind Willie Johnson. Ou encore, montrez les activités d'un gang de cambrioleurs sur l'intégralité de la chanson Can You Hear Me Knocking des Rolling Stones. Ça, c'est dans Casino encore, à propos du personnage de Joe Pesci. Et on peut multiplier les exemples. Hein. Un artiste peintre qui exécute son tableau avec en fond sonore une version en concert de Like a Rolling Stone par Bob Dylan and the Band. Et ça, c'est une séquence d'apprentissage. C'est le segment que Scorsese a réalisé pour le film à sketch New York Stories en 1989. Ou alors une scène de viol racontée en flashback et utilisant Don't Ask Me to Be Lonely. Une complainte amoureuse des années 50 par le quintet de vocal The Dubs. Alors la chanson s'en trouve complètement pervertie, elle devient même une agression tellement elle sonne faux dans ce contexte. Et ça, c'est dans Who's That Knocking at My Door. Donc voilà, on ne peut pas parler de Martin Scorsese sans parler de musique. Alors lui-même, il l'a souvent dit, hein, sa passion pour la musique, le pop, le rock, l'opéra, musique de film, elle égale celle qu'il a pour le cinéma. Et il l'a souvent aussi raconté que quand il était jeune, la musique était partout dans les rues, dans les bars, à la radio, dans les voitures, ça sortait par les fenêtres des appartements, les gens chantaient, et lui, il ne comprenait pas qu'on ne retrouvait pas ça dans les films. Et donc, cette atmosphère qui est très naturelle pour lui, il veut la retranscrire dans son cinéma. Il faut aussi rappeler qu'il était officiel de Woodstock, hein, dans l'équipe de tournage du documentaire, et il a participé au montage du film. Son court-métrage le plus connu, le très sanglant The Big Shave, il est accompagné tout du long par un classique du jazz swing, et puis il nourrit une véritable obsession pour la chanson Gimme Shelter des Rolling Stones, encore une fois. Il l'utilise dans plusieurs de ses films, et on en a même deux versions différentes dans Casino. Et bien sûr, il y a tous les projets musicaux. The Last Waltz, qui retrace le dernier concert de The Band en 1976, il y a deux documentaires très différents sur Bob Dylan, d'ailleurs le deuxième n'est un documentaire qu'à moitié, un autre sur George Harrison, et encore un autre sur l'ancien chanteur des New York Dolls, David Johansen. Et puis vous avez une série de films sur le blues, dont il réalise le premier épisode, un concert filmé des Rolling Stones en 2006, qui est Shine a Light. Bon alors, la musique chez Scorsese, hein, c'est pas simplement un fond sonore, ou un marqueur temporel, genre une musique de 1970 pour un film qui se passe en 1970. Non, c'est pas ça. C'est la musique, elle sert à commenter l'action ou à démultiplier l'énergie d'une scène. Par exemple, vous avez ça dans Mean Street, avec la chanson Please Mr. Postman sur la bagarre dans la salle de billard. Je conseille de la revoir. Elle sert aussi à retranscrire l'état intérieur d'un personnage, hein, voire à caractériser un personnage lui-même, hein, comme l'exemple que je viens de citer de Can You Hear Me Knocking avec Joe Pesci. Et depuis ses débuts, hein, Scorsese, il a cessé de peaufiner son travail sur la musique et le montage. C'est-à-dire que vous avez des morceaux qui débutent, s'interrompent, reprennent plus tard, le volume monte ou descend dans une même scène, les dialogues passent par-dessus, puis la musique reprend le premier plan sonore, il y a des morceaux qui succèdent, qui s'entremêlent, qui se télescopent. La musique du film Le Mépris de Godard se combine à un saut de batterie de Cream. Alors si ça, vous avez ça dans un film de Scorsese. Et donc sur ce plan, hein, prenez juste Casino et Les Affranchis, et vous avez une foule de passages à donner le tournis. Et parmi ces passages, on retrouve cette fameuse scène où un Ray Liotta complètement parano, courant partout, accompagné par du Muddy Waters, du George Harrison, un bout de Magic Bus des Who, un autre bout de Memo from Turner de Mick Jagger, tout ça dans la même scène, dans une cacophonie de virtuose. Quoi. Donc pour finir, je vous propose d'écouter un dernier morceau dans British Connection, la chanson Lead for Sky de Jackson Browne. On l'entend lors d'un moment glaçant de Taxi Driver, le moment où Travis Bickle regarde sa télévision sans le son avec un énorme revolver à la main. Allez, salut!
Steps from the beginning until they vanished into the air, trying to understand how our lives had led us there. was nobody I'd ever known. Such an empty surprise to feel so alone. Now for me, some words come easy, but I know that they don't mean that much compared with the things that are said when lovers touch. You never knew.
Savoir plus sur Martin Scorsese, il vient acheter le bouquin d'Arnaud Le Villard. C'est la troisième partie de l'album de la semaine. Il s'appelle Baffle ou Torgnol, la multiplication des pains. Quelques concerts à venir, par exemple Massy, Montreuil, Reims, Cerny ou Paris.
Le prochain morceau, c'est deux morceaux, réunis dans un diptyque un peu schizo. La première partie, Tu te calmes, s'adresse à tous les dominants, les mascus, bref, les gens de droite. Dans la deuxième partie, on inverse tout et on appelle les opprimés, les dominés, enfin ceux qui n'osent pas, à ouvrir leur gueule. Tout de suite, Tu te calmes, énerve-toi.
Tu te calmes, tu te calmes. Quand les coquilles et bien, lui qui avait l'air sympa, comme une main qui se porte en arrière sur